c'est pas gagné. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Mais bien, chers frères, il s'agit du royaume de Dieu. En plein milieu de l'été, il nous est donné paisiblement de contempler le royaume de Dieu pour essayer de comprendre de quoi il s'agit, car ce n'est pas si simple. Car nous vivons dans le royaume de la terre. Alors il nous faut entrer dans des images successives qui permettent, c'est des paraboles, de comprendre à chaque fois un petit peu quelque chose de mieux de ce royaume des cieux dont nous voulons vivre. Voyons d'abord ce qu'il est, ce royaume, quelle est sa valeur et comment se construit-il, pour ensuite voir dans un deuxième temps comment je fais pour le trouver moi-même. Tout d'abord, quelle est la valeur du royaume de Dieu ? Elle est infinie. Et aucune image n'arrivera à dire cette richesse. Mais ce n'est pas parce qu'aucune image n'arrive à la dire qu'on n'a pas besoin d'images pour essayer de comprendre. Ici, le Seigneur prend deux images très simples, un trésor dans un champ et l'autre une perle fine. Alors, vous pourriez vous dire, c'est un peu vulgaire parce que le royaume de Dieu, c'est beaucoup plus qu'un simple trésor dans une cassette ou une perle. Oui, mais pour nous, à la hauteur de notre vision terrestre, un trésor, si vous trouviez un trésor plein de pièces de louis d'or, par exemple, si vous trouviez, si vous étiez un chercheur de perles toute votre vie et que vous ayez trouvé la perle suffisamment importante pour que vous vendiez toutes les autres, c'est ce qui s'appelle une analogie, mais c'est comme ça que nous devons désirer le royaume des cieux. Vous voyez ? Si on... Oh oui, oui, c'est sûrement bien, j'aimerais bien. Mais non, c'est pas ça. Vous devez désirer le royaume des cieux comme quelque chose d'extraordinaire pour lequel vous êtes prêt à tout vendre. Ça, le royaume des cieux. Notre désir ne peut pas être un petit désir à la petite semaine. Nous désirons Dieu lui-même. Et on a du mal à comprendre ce que ça veut dire. Mais mettez-vous bien dans l'esprit qu'il s'agit de quelque chose de supérieur. Bien entendu, il s'agit d'un bien spirituel, c'est-à-dire encore plus riche qu'un bien matériel. Là aussi, c'est une analogie avec l'amour humain, mais c'est évident que l'amour de ce monde, même dans ce monde, c'est beaucoup plus précieux que l'amitié qu'on a pour des chaises, des tables, même des bijoux, même des pièces d'or. Enfin, je vous le souhaite, parce que, vous le savez, pour ceux qui ne sont pas capables d'atteindre à cette valeur spirituelle, ils sont très malheureux, parce que le cœur de l'homme ne se nourrit pas seulement de pain, mais de toute parole qui vient de la bouche du Seigneur. Et la parole du Seigneur, c'est qu'il nous aime. Voilà ces biens spirituels dont nous voulons vivre absolument, ce royaume de Dieu qui ne nous est pas immédiatement compréhensible, car il y a une tension inéluctable en nous. Nous sommes bien charnels, bien que nous soyons aussi des êtres spirituels, mais nous sommes des êtres mélangés. Ce n'est pas un malheur, ce n'est pas une dégradation comme l'ont pensé certains philosophes. C'est la condition qui nous est donnée pour trouver doucement, petit à petit, que nos yeux s'ouvrent et découvre qu'au-delà de ce qui me fait plaisir, de ce que je peux manger, vous savez, c'est la première découverte de l'enfant, il met tout dans la bouche parce que c'est l'appropriation matérielle, et bien qu'au-delà de cette matière, il y a quelque chose de plus important qui est l'amour que Dieu a mis en moi, que je découvre à travers l'amour de mes parents, l'amour des autres, l'amour des uns et des autres qui m'est porté. Voilà comment nous devons petit à petit découvrir le royaume de Dieu. Ce bien supérieur pour qui nous sommes prêts à tout donner. Et les religieux en ce monde ont cette charge de nous rappeler sans cesse cet amour inconditionnel. Alors bien sûr, nous ne sommes pas tous appelés à être religieux, je ne suis moi-même pas religieux, parfois on se trompe, les prêtres de l'ordre diocésain ne sont pas des religieux, je suis un séculier, je suis dans le monde, pas de la même manière que vous, c'est vrai. Mais vous qui êtes parfaitement dans le monde, qui êtes des laïcs, vous n'êtes pas appelés à enlever tous vos vêtements, à mettre une robe de bure, et ce n'est pas ça. Mais les religieux qui le font pour nous ont pour charge de nous rappeler sans cesse, le Concile Vatican II dit que leur vocation est d'abord eschatologique, ça veut dire qu'elle n'est pas faite d'abord pour maintenant, elle est faite pour la fin du monde, elle est faite pour nous rappeler la fin, c'est-à-dire que tout sera résumé dans la valeur spirituelle des choses, qui est l'Esprit de Dieu. Voilà ce qui est important à comprendre. Alors ce royaume, comment il se réalise? C'est la troisième image employée par le Seigneur. Ce filet que l'on ramasse, avec lequel on ramasse des poissons, ce royaume, il se construit petit à petit. Il se construit au fur et à mesure. Et c'est une bonne nouvelle. Ce n'est pas immédiat. Nous n'avons pas à comprendre immédiatement ce qu'est le royaume de Dieu. Nous n'avons pas immédiatement à nous y livrer complètement. Nous allons nous y livrer petit à petit. Il s'agit d'une pêche, pour ce qui est l'image qui est prise ici, et le Seigneur patiemment ramasse tout le monde. Il va ramasser, c'est l'inexorable plan de Dieu, de ramasser tous les hommes et de les ramener sur le rivage, c'est-à-dire sur l'autre rivage, le rivage que nous connaîtrons après notre mort, le rivage qui n'est pas celui-ci, mais celui d'après, celui de l'éternité. Cette réalisation fait que nous pouvons être des coopérateurs de cette pêche. Nous sommes bien sûr les poissons, mais nous sommes aussi les ouvriers qui ramènent et qui vont aider le Seigneur, les anges, à trier cette pêche miraculeuse. Nous coopérons par toute notre vie à la réalisation du royaume de Dieu en moi. On le dit hein, quand on baptise des enfants, mais quand on baptise dans la joie du baptême, j'ai peur qu'on n'entende pas bien ce qu'on dit. On dit que le royaume de Dieu est déjà commencé. Et comment ne le comprendre, sinon que nous vivons déjà dans l'éternité. Alors on sait que nous vivons dans ce monde, nous vivons dans le temps, mais nous vivons déjà de l'éternité. Voilà la bonne nouvelle de ce royaume qui est en construction, mais qui n'est pas un royaume pour un jour, après notre mort, qui est un royaume pour maintenant. Et c'est les actes que vous réalisez maintenant, c'est ma deuxième partie, c'est ce que nous faisons maintenant qui constitue ce royaume. Alors, ce royaume, pour le trouver, c'est un royaume qui est en acte et en vérité. La vie spirituelle, ce n'est pas dans la tête. La vie spirituelle, c'est dans la réalité de notre vie. Il nous faut nous départir des choses et juger du bien et du mal. Car le bien et le mal ont une réalité. Une réalité factuelle. Je vous le dis parce que dans notre temps, on essaye de nous faire croire que tout ça est très relatif. Le bien, le mal... Eh bien non, c'est pas relatif. Si en venant au pied de cet autel, je vous bénis, j'appelle le bien sur vous, je veux du bien sur vous, je vous fais du bien, ce n'est pas la même chose que si vous veniez, car je ne le ferai pas, et que je vous maudissais, et que j'appelais le malheur sur vous, et que je vous veuille et que je vous fasse du mal, eh bien c'est pas pareil. Voilà. Alors je suis désolé pour les relativistes de tout poil, mais le bien et le mal, ce n'est pas la même chose. Il y a une réalité qui me fait vivre, et puis il y a une absence d'amour, une absence de réalité bonne qui me fait mourir. C'est ça dont il faut nous rendre compte. C'est le discernement du bien et du mal. Alors bien sûr, ce discernement sera fait à la fin des temps, par le juste juge. C'est marqué ici, hein, ce n'est pas une invention de curé, hein. C'est marqué dans l'Évangile. Ceux qui doutent qu'à la fin du monde, il y aura un jugement et une rétribution, c'est qu'ils n'ont jamais lu l'Évangile. C'est un sujet dont le Seigneur, rien que dans les Évangiles, je ne vous parle pas de toute la Bible, parle plus de 50 fois. Il y aura un jugement. Dites-le aux gens. Ce n'est pas pour leur faire peur. Je ne suis pas en train de vous apeurer, etc. Je suis en train de vous prévenir que justement, il y aura un jugement. Et je me réjouis de savoir qu'il existe et je me réjouis de savoir que je vais y participer. Car c'est ma conscience qui me fera voir tel mon être, tel qu'elle est. Mais vous qui êtes de bons chrétiens, vous faites votre examen de conscience le soir. Alors vous ne serez pas surpris, vous savez où vous en êtes. Vous avez cette liberté intérieure qui vous fait dire « ça, c'était bien, je suis fier de moi, je suis content, merci, grâce à Dieu, j'ai pu faire le bien. Ça, je ne suis pas content, c'était pas bien, je n'en veux plus. » Voilà ce discernement hein, que les chrétiens, et d'autres, hein, et il suffit d'avoir une conscience pour pouvoir discerner, il n'y a pas besoin d'être chrétien, hein. Dieu a mis au cœur de tout homme cette possibilité de discerner le bien et le mal dans ses actes. Prions Dieu que ce jugement intervienne en ce monde pour nous que nous puissions sans cesse choisir de plus en plus d'aller de mieux en mieux, plutôt que dans l'insouciance, nous voyons arriver ce jugement qui nous condamne. Car il y aura des pleurs et des grincements de dents, une fois de plus, ce n'est pas moi qui l'invente, c'est le Seigneur. Pour l'occurrence de l'enfer, dans les évangiles, c'est 34 fois. Voilà, vous voyez ? Parce qu'il y a des tas de choses dans les évangiles qui sont suggérées, qui sont évoquées, dont on peut tirer des tas de comportements, l'écologie, les relations d'entente entre les hommes, tout ça, c'est des choses bonnes qu'on tire de l'évangile, hein, mais qu'on en tire en faisant une interprétation. Là, il n'y a pas d'interprétation à faire. 34 fois l'enfer et 50 fois la vie éternelle. Alors, il faut y croire. C'est ce pourquoi nous venons, c'est pour trouver la vie éternelle maintenant. Alors, d'un point de vue pratique, je terminerai en vous disant qu'il faut solliciter ce discernement intérieur, que nous trouvions la force toujours et de connaître le bien et le mal, et de le faire, le bien, et d'éviter le mal. C'est ça, la vie chrétienne. Je vous donne quelques clés très simples, mais vous le savez, pour discerner entre le bien et le mal, il y a, souvent c'est évident, hein, la plupart des actions que nous posons ne sont pas compliquées, heureusement, grâce à Dieu. Et nous savons assez rapidement si une action est bonne ou mauvaise. C'est notre vie ordinaire. Ce qui est difficile, c'est pas tellement souvent de savoir si c'est bon ou mauvais, plutôt que de savoir comment je vais faire pour ne pas faire le mal, hein, que je voudrais pas faire, et comment je vais réussir à faire le bien que je voudrais faire, ce que dit saint Paul. C'est une faiblesse intérieure, il faut renforcer notre volonté. Mais parfois, ça peut être compliqué de discerner le bien, ou le plus grand bien, c'est encore plus dur. Discerner entre le bien et le mal, c'est pas trop dur. Discerner quel est le meilleur bien que je dois réaliser, ça c'est difficile. Alors, c'est la prière qui va vous ouvrir le chemin du bien. Demandez la grâce de Dieu, cherchez sa volonté, essayez de vous détacher intérieurement de tout choix a priori pour regarder ce qui vous semble être le meilleur. Et puis, le bien produit du bien. Donc, si vous envisagez un acte qui produit du mal, eh bien c'est qu'il est mauvais. Si vous envisagez un acte qui va produire du bien, c'est qu'il est bon. Et puis, le fruit est aussi intérieur. Si vous envisagez un acte qui vous apporte la paix, la joie, le désir du bien, c'est sûrement qu'il est bon, vous êtes sur le bon chemin. Si vous envisagez un acte qui vous apporte l'inquiétude, l'angoisse, la tristesse, vous êtes sûrement sur le mauvais chemin. Pour cela, ce n'est pas si dur, mais il vous faut prendre un temps de réflexion, un temps de prière, pour pouvoir être certain de poser le meilleur acte pour vous. Et le meilleur acte que vous allez poser, celui que vous allez choisir comme étant ce qui va vous mener plus certainement à Dieu, soyez certain que c'est ainsi que la volonté de Dieu va se manifester à vous. On se demande souvent comment Dieu manifeste sa volonté. On pense aux apparitions ou aux messages extraordinaires. Dieu peut le faire, c'est vrai, mais ce n'est pas sa méthode habituelle de communication avec l'homme. C'est dans votre désir du bien, dans votre choix intérieur, dans votre détachement de vous-même et dans la recherche de la vie éternelle que vous allez découvrir quelle est la volonté de Dieu. C'est ça ma noblesse, de coopérer à la volonté de Dieu d'une manière si intime qu'il me revient à moi de l'exprimer. Ainsi soit-il.